J'aimerais que nous lisions deux passages dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Tout d'abord dans 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Et nous allons lire les versets 1 à 14. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézer. Ils allèrent en Galad et dans le pays de Tchatchim-Otchi. Ils allèrent à Dan, Jaan, et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du démembrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays ?» « Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Et maintenant, j'aimerais que nous lisions un passage parallèle hein, qui raconte la même histoire, mais de façon un peu différente, on le verra tout à l'heure pourquoi. Dans 1 Chronique, chapitre 21, versets 1 à 13. 1 Chronique, chapitre 21, versets 1 à 13. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapporte-le-moi ainsi afin que je sache à combien il s'élève. » Donc là, je ne vais pas relire tout le passage d'un Chronique 21, puisque ça reprend les mêmes choses que dans 2 Samuel. Simplement, verset 13, il est dit, « David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Donc, si je devais donner un titre à ce message, il pourrait y en avoir plusieurs, mais un qui me tient à cœur et que dont nous parlerons à la fin, le sujet sera traité à la fin, c'est « Quelle grâce d'être châtié par Dieu !» Quelle grâce d'être châtié par Dieu ! On voit ici une période intéressante de la vie de David et du peuple. Ils ont conquis une grande partie du territoire en pays de Canaan. Le royaume commence à s'installer, David a du succès, et là il demande quelque chose qui ne semble pas être la volonté de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Joab, on sait que c'est pas forcément un personnage toujours très spirituel, et la fin de sa vie nous le montre. Néanmoins, même Joab là discerne que quelque chose ne va pas, et il essaye de dissuader David de ne pas faire ce dénombrement. Et malgré tout, David insiste. Alors, c'est dit dans ce passage, mais je le répète, on l'a lu, mais je veux rappeler une chose, c'est que des fois, quand on lit la Bible, là, on a pris quelques secondes pour lire un texte, Mais il est dit dans le texte que le dénombrement a pris plus de 9 mois. Donc, vous voyez, c'est une période assez longue. C'est-à-dire que David fait quelque chose que Dieu lui a pas demandé de faire, et même il fait quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Et donc, cette période dure 9 mois. Il se passe des choses en 9 mois dans le cœur d'un homme. Et Dieu aussi fait un travail pendant ce temps-là. Mais nous voyons, selon un chronique, que le diable fait un travail aussi. Et pourquoi Dieu permet qu'il y ait deux fois ce passage raconté dans la Bible, une fois en 2 Samuel et ensuite en 1 Chronique? Comme on l'enseigne souvent à l'Institut biblique, quand on fait le survol de l'Ancien Testament, c'est que la vie de David dans Samuel et de Salomon ensuite dans les Rois, et ce qui nous est donné dans Chronique, raconte les mêmes événements mais d'un point de vue différent. D'abord, c'est un point de vue de l'œuvre accomplie dans le Chronique, c'est-à-dire qu'il y a la vertu du sang de Christ qui est apposée au texte, c'est-à-dire que on voit les choses avec le pardon de Dieu, avec la miséricorde de Dieu. Et il y a certaines fautes commises par certaines personnes dans les livres historiques précédents qui ne sont pas mentionnées dans Chronique. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans Chronique, nous voyons au-delà de ce que font les hommes. On voit le point de vue de Dieu et aussi on voit ce qui se passe dans le royaume invisible. Et c'est intéressant parce qu'à travers ces anthropomorphismes, ça nous aide à comprendre aussi des contradictions apparemment théologiques que l'on a et les questionnements que l'on se pose, parce qu'on se dit, mais dans un premier temps, quand on lit 2 Samuel, il est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement ». Donc quand on lit ce texte, on se dit « Mais c'est Dieu qui dit à David de faire ce dénombrement, donc c'est le plan de Dieu ». Et quand on lit la suite du texte, on voit que Dieu reproche à David d'avoir fait le dénombrement. Donc on se dit « Mais comment ça se fait ? Dieu parle à David, il parle pas forcément, mais il encourage en tout cas, il incite à le faire, et puis après il le lui reproche ». Mais justement, dans 1 Chronique, on a la réalité spirituelle. C'est-à-dire que Dieu va en effet permettre que David fasse le dénombrement, parce que c'est un jugement de Dieu contre le peuple, et aussi un moyen pour Dieu d'enseigner David sur certaines choses. Et donc il va laisser le diable faire, il va permettre que le diable séduise David pour faire le dénombrement. Et évidemment, derrière, il y a la souveraineté de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que c'est Dieu qui a incité David. Parce que si Dieu avait empêché Satan, le dénombrement ne serait pas fait. Ou il aurait même pu empêcher David lui-même de le faire. Donc vous voyez, là on a deux perspectives, deux points de vue qui nous permettent, lorsqu'on les assemble, de se dire « Ah, voilà ce qui se passe en réalité ». Et d'ailleurs, on a d'autres exemples dans la Bible. J'en ai noté deux ou trois. Nous avons par exemple en Job, chapitre 1, verset 12, ou chapitre 2, verset 6, lorsque Dieu dit à Satan « Vois mon serviteur Job ». Et là, Satan est en train de mettre au défi Dieu ensuite, et il lui dit, mais oui, tu es en train de le bénir, mais si tu le bénissais un peu moins, tu verrais s'il t'adore ou pas. Et Dieu donne l'autorisation à Satan d'agir. On a aussi en 2 Corinthiens 12, verset 7, lorsque Paul discerne très bien que c'est un démon qui l'enquiquine, c'est une écharpe dans sa chair, et derrière ce qu'il est en train de vivre, il discerne bien qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a une opposition. Mais il sait aussi, de la part de Christ, que c'est Dieu qui permet cela afin qu'il ne soit pas orgueilleux. Donc Dieu, dans sa souveraineté, constatant depuis bien longtemps évidemment que le diable lutte contre lui, dans sa stratégie, il incorpore les agissements de Satan pour que lui aussi agisse de façon parfaite et de façon ultime. C'est la même chose dans notre vie. Pourquoi Dieu nous laisse parfois commettre certains péchés, puis parfois il nous empêche de commettre certains péchés? C'est un mystère aussi. Parce que, en réalité, Dieu contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec cela, mais il contrôle toutes choses pour que, in fine, son plan s'accomplisse. On a aussi, dans 1 Samuel 16, le fait qu'il y a un mauvais esprit qui oppresse Saül. Et donc il est dit là que dans verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Mais Dieu n'envoie pas de mauvais esprit, il n'est pas à la tête des démons. Mais tout simplement, c'est qu'il y a des anges qui ont chuté, qui agissent sous le contrôle de Satan, et Dieu permet là en l'occurrence, que ces démons agissent contre la vie de Saül pour apporter un jugement sur la vie de Saül. Donc, si vous voulez, dans la vie chrétienne, il faut faire très attention de ne pas faire comme le font certains, de voir des démons partout et de tout spiritualiser comme si on pouvait se dédouaner de ce qui se passe sur la terre et de ce qui se passe dans la chair, ou de se dédouaner de nos choix et de notre libre arbitre, en disant, bah, de toute façon, il y a un combat spirituel et voilà, c'est pas contre la chair et le sang, et donc on va prier sans prendre ses responsabilités. Non, nous prenons nos responsabilités et nous sommes acteurs aussi de ce qui se passe. Et d'autres, a contrario, voient tout d'une manière naturelle, sans réaliser que derrière, il y a un combat spirituel, et que nous sommes dans une guerre qui nous dépasse, et que nous avons un ennemi beaucoup plus puissant que nous. Et là, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que David, le reproche qui va lui être fait, c'est d'essayer d'évaluer ses propres forces. Et on ne peut pas vivre la vie chrétienne, on ne peut pas lutter dans le combat spirituel en s'appuyant sur nos propres forces, ou en attendant d'avoir des forces plus importantes, bref, d'agir par la vue au lieu de marcher par l'esprit et de marcher par la foi. Et c'est pour ça que dans toute œuvre, j'allais dire missionnaire, œuvre d'église, les œuvres de foi, il faut à la fois être assez sage, comme Jésus nous l'encourage par ailleurs, c'est-à-dire que si je veux construire une tour, je m'assois et puis j'évalue un petit peu le prix. Mais c'est pas parce que j'évalue le prix que je vais dire, bah si c'est trop cher, je le fais pas. C'est pas ce que Jésus dit. Il dit simplement, sois conscient. Ne te plains pas après. Et donc si parfois il va falloir que tu perdes ta vie, tu te consacres à quelque chose, tu dois évaluer ça. Et pas dire oui comme ça et puis après abandonner. Mais en revanche, c'est pas parce que je n'ai pas assez d'argent pour construire la tour que je vais pas forcément que je vais m'arrêter de la construire. Je vais dire à Dieu, Seigneur, je sais que c'est ta volonté que je la construise. Je suis conscient que je manque de force, que je manque de moyens, mais parce que je sais que c'est la volonté de ta part, je marche par la foi et je m'attends à toi, je ne m'appuie pas sur mes forces. Donc vous voyez, c'est ça l'équilibre. La volonté de Dieu, c'est pas bah, « Dieu pourvoit avant que je commence ». Non, la volonté de Dieu, c'est « bon, il faut être sûr d'avoir bien entendu de Dieu, mais il va souvent pourvoir durant notre marche », ce qui n'est pas la même chose. Simplement, il va y avoir des périodes de test, des périodes où on va se sentir seul, abandonné, en manque de moyens, en manque de force, on constatera certaines incapacités. On va devoir se mettre sur nos genoux et de rappeler à Dieu sa promesse en disant « Seigneur, viens au secours de mes faiblesses, parfois de mon incrédulité, de mes rancœurs, parfois de mon amertume, mais en tout cas je sais que c'est ta volonté, je m'attends à toi. » Et Dieu là va agir d'une façon très surprenante à chaque fois. Le problème, c'est que David, qui est pourtant un exemple de foi, là, fait une erreur. Alors vous allez me dire, il ne le dit pas, mais il aurait pu le dire aussi, David, mais Moïse, il a bien fait le dénombrement. Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de le faire? D'abord parce que c'est Dieu qui l'avait demandé à Moïse. Premier point. Bien entendu, on doit regarder nos conducteurs qui nous ont précédés, regarder quelle a été leur fin. Si je regarde la fin de Moïse, je peux dire, oui, il a fait des erreurs, mais voilà, Dieu l'a utilisé puissamment, et donc je vais faire comme lui. Non, c'est sa foi que je dois imiter, c'est pas forcément ce que Dieu lui a demandé de faire. Parce que une part de foi est donnée par Dieu en fonction de sa volonté, et donc il est important de discerner cela. Et tant que Dieu ne parle pas ou ne communique pas certaines choses, on n'a pas à imiter la vie des autres, on a à imiter leur foi, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, Dieu avait demandé ça à Moïse à l'époque, c'était comme pour installer une borne, si vous voulez, en disant, voilà, vous rentrez en Canaan, voilà quel est le nombre dont on va se souvenir. Là, Joab a une réflexion très intéressante d'ailleurs. Il encourage David en disant, mais si tu veux regarder le nombre de tes soldats, tu peux les regarder. Si tu as envie de voir, vas-y, regarde, mais ne compte pas. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et David, évidemment, passe à côté là de ce conseil qui lui est donné. Et vous savez, je parlais du combat spirituel, mais le combat spirituel, et je parle du diable là, le diable prend avantage d'un combat qu'il y a à l'intérieur en fait. Le diable ne peut pas faire grand-chose lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, que nous sommes convaincus par lui et que nous marchons dans ses plans. Là où ça devient compliqué, c'est quand on n'arrive pas avec Dieu à gérer les conflits qu'il y a entre le moi et Dieu, entre l'ego et sa personne, entre la chair et l'esprit. Et quand il y a cette lutte, le diable ensuite va prendre un avantage. Et là, David voulait compter sur sa puissance, il voulait s'encourager. Alors on peut le comprendre, et ça peut être, s'agissant de David, ça peut être une pierre d'achoppement dans sa vie, c'est que on est juste avant, je dirais, la succession qui va être faite. Il va donner son royaume à Salomon. Il va mourir dans peu de temps. Et peut-être qu'il avait envie de savoir ce qu'il allait donner à son fils. Peut-être qu'il voulait se rassurer. Peut-être qu'il voulait aussi rassurer son fils. Et donc la sentimentalité aussi peut nous faire faire des erreurs. Dans cette période de transition qui est la sienne, là où il commence à raisonner en lui-même. Vous savez, Éphésiens 6, 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et dans ces armes, nous savons qu'il y a le bouclier de la foi. Et je vous ai souvent enseigné sur ce principe du bouclier ou de la rondache, parce qu'il y a un psaume, je crois qu'il est de David, où il est parlé du fait que Dieu est le bouclier, la rondache du croyant. Donc la différence entre un bouclier et une rondache, c'est que le bouclier était utilisé plutôt comme une arme défensive. C'est-à-dire que vous aviez les lances, les flèches de vos opposants, et le bouclier servait à vous protéger. Et les Romains, par exemple, je ne sais pas si les Hébreux faisaient ça, mais ils avaient des boucliers en bois parfois, et lorsque l'ennemi envoyait des flèches enflammées, tout comme le diable envoie des flèches enflammées aussi, ils badigeonnaient avant le combat leur bouclier en bois d'eau d'un liquide, ce qui fait que les flèches n'embrasaient pas le bouclier, elles s'éteignaient, si vous voulez, tout de suite quand elles étaient plantées dans le bois qui était devenu humide. Et donc le bouclier peut être une arme défensive, c'est-à-dire que nous allons pouvoir lutter contre les dards enflammés du malin, c'est-à-dire une arme qui est envoyée de loin et on va se protéger. Et puis parfois quand on se bat, il y a le corps à corps, où là le combat est beaucoup plus frontal. Et la rondache, c'était un bouclier qui était rond, avec une pointe au centre. Et ce qui fait quand vous attaquiez votre ennemi, vous enfonciez le bouclier dans le thorax ou le ventre de votre ennemi, ce qui fait que c'était pas uniquement une arme défensive dans ces cas-là, ça devenait offensif. Et ça aussi, c'est l'arme que Dieu nous donne. Et donc le bouclier, c'est le bouclier de la foi. La foi nous protège et la foi nous fait avancer. Et donc la foi est à la fois une arme défensive et en même temps une arme offensive. La foi est à la fois un bouclier et une rondache. Et ce sont ces armes-là dont nous avons besoin, et dans la situation qui était celle de David, ça devait être encore la foi qui devait animer les décisions ou diriger ou conduire les décisions de David. Et il en est de même pour nous. Quelle est la part de foi dans nos décisions? Quelle est la part de foi? Peut-être que parfois on évalue la situation et notre évaluation est correcte et on pense que ça va être possible, et on peut être dans le plan de Dieu d'ailleurs. Mais il faut quand même rajouter la foi, même si on croit avoir toutes les armes en main. Parce que de toute façon, il peut survenir un événement qui fait que tout ce qu'on a aujourd'hui, on le perd demain. Je peux perdre la santé, je peux perdre de l'argent, je peux perdre mon travail, je peux perdre des collaborateurs, l'équipe peut se diviser. Il peut y avoir tellement de choses. Il peut y avoir une épidémie, maintenant on peut le dire, parce que si on avait dit ça il y a 10 ans, on nous aurait traité de prophète de malheur. Mais je veux dire, regardez tous les projets. Je repense à je crois que j'en avais déjà parlé une fois, à Montpellier, c'était en janvier 2019, donc 2 mois avant la Covid. Ils avaient pas interviewé la personne en janvier, mais quelques mois après. Mais il se trouve qu'un jeune de 24-25 ans avait acheté une boutique pour vendre des produits. Et le pauvre homme, il avait toutes les clés en main. C'était un spécialiste, il avait les capitaux, les banques avaient suivi, il avait trouvé le local, il avait fait une étude de marché, il avait tout. 2 mois après, confinement. Vous imaginez un peu ce qu'il a pu traverser? Mais voilà, la vie c'est ça. Donc si Dieu nous montre quelque chose, soyons sûrs que les choses vont s'accomplir malgré tout ce qui pourra arriver. Et ne comptons pas uniquement sur nos propres forces. Et ça peut être à tous les niveaux. Parfois ça peut être, je sais pas, j'ai un voyage à faire, je pense aux études bibliques qu'on va faire en Belgique. Il y en a qui nous prennent pour des zinzins en disant « mais vous êtes une église à Paris, qu'est-ce que vous allez faire en Belgique ?» Je l'ai entendu dans une pastorale une fois, c'était pas la Belgique, c'était la Normandie. « Mais pourquoi vous faites des études en Normandie ?» Ben, tout simplement parce qu'il y a un besoin, il y a des âmes, il y a des gens qui ont envie d'écouter la parole de Dieu, qui ouvrent leur maison et on y va, par la foi. Et puis après, je ne sais pas ce qu'ils feront de leur vie, ça ne nous regarde pas, l'un sème, l'autre arrose, mais on y va par la foi parce qu'on croit que Dieu nous envoie là-bas. Entre parenthèses, il n'y a pas eu d'église pour l'instant en Normandie. Mais quand on pense à la vie de ce frère qui a été à l'église de Montpellier en partant de là-bas et qui se retrouve aujourd'hui à Baltimore en train de faire sa quatrième année d'institut biblique, il est passé la Normandie à Montpellier, aujourd'hui aux États-Unis, et dans quelques années, on ne sait pas ce qu'il va être. Donc on est peut-être allé pêcher une âme pour un plan que Dieu seul connaît. Mais par la foi, on fait les choses. Et donc, n'évaluez pas les choses qui sont devant vous en fonction de ce que vous connaissez. Vous savez, on peut être un intellectuel et être idiot. On peut avoir beaucoup d'argent et on peut manquer de sagesse. On peut avoir une technicité qui n'amène pas la présence de Dieu. Je veux dire, ce qui compte, c'est d'être dans le plan de Dieu et de marcher dans les voies de Dieu. Et de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Vous savez, nos capacités, de toute façon, elles ne sont rien devant le diable. On peut avoir toute la capacité qu'on veut. Dans le combat spirituel, c'est de l'aide de Dieu dont nous avons besoin. Ce ne sont pas nos capacités qui feront la différence. Et Dieu a souvent encouragé son peuple à faire attention à cela. En 2 Rois 18-21, il est dit « Voici, tu as placé dans l'Égypte, chose que le peuple de Dieu ne devait pas faire, tu as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. » Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Ça m'est jamais arrivé, hein, mais je peux imaginer de m'appuyer sur un roseau brisé en pensant m'appuyer sur une canne. Ça doit faire mal. Mais parfois, nous prenons appui sur des choses ou des gens qui font mal. Ça nous transperce. Et Dieu dit, ne vous appuyez pas sur le système de ce monde. Ne vous appuyez pas sur Pharaon, type du diable. C'est repris dans Ésaïe 36. Verset 6. Voici, tu as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Alors, là où il y a toujours quelque chose de merveilleux dans la vie de David, et c'est ce qui explique que Dieu l'ait choisi pour accomplir tout ce qu'il a accompli avec lui, malgré ses erreurs, notamment celle-là, c'est qu'on a un homme qui est humble. À un moment, je dis qu'il fait à son idée, il tue des gens, enfin une personne comme Uri, il commet adultère avec Bathsheba, là il fait le dénombrement, donc voilà, dans la chair il est peut-être le pire de tous. C'est un meurtrier, un adultère, un têtu, là malgré ce que Joab lui propose. Mais c'est un homme qui très rapidement marche dans l'humilité. Et là on a vraiment un type de ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre vie. À l'époque, ils n'étaient pas régénérés comme nous le sommes, ils n'étaient pas le temple du Saint-Esprit, l'Esprit était sur les prophètes, sur les rois, sur des personnes en particulier. Mais là on lit au verset 10 de 2 Samuel 24, « David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. » Ça vous est jamais arrivé d'accomplir ce que vous vouliez, et puis en fait, une fois que c'est accompli, vous n'êtes pas à l'aise. Ça peut être dans une dispute avec quelqu'un. Ah ben, j'ai donné mes arguments, et il pouvait rien dire. Oui, mais on sort de la conversation, on est peut-être vainqueur, mais on n'est pas en paix. On fait peut-être des choses qui sont bien, vu de l'extérieur, on fait rien de mal. Et peut-être que Dieu nous utilise même. Mais en même temps, on n'a pas la paix, parce qu'on sent qu'on n'a pas marché dans les voies de Dieu. Oui, ça semble être une victoire, et pourtant il y a comme un dépérissement intérieur. Et là, c'est ce qui se passe dans la vie de David. C'est-à-dire qu'on lui ramène les informations. Voilà, il y a 800 000, je crois, au royaume du Nord, 500 000, enfin c'était pas le royaume du Nord et du Sud à l'époque, en tout cas, voilà, 500 000 en Juda, donc ça fait à peu près 1 300 000 personnes, des hommes en âge de combattre. Il n'est pas dit « Oh, le chiffre me paraît ridicule, oh là là, on n'est pas nombreux » ou au contraire « Waouh, on est puissant ». Non, il ne fait pas de commentaires, parce que peu importe le résultat, il sait qu'en réalité, ça ne remplit pas son âme, ça ne le satisfait pas. Et combien de fois on peut être dans cette situation où ça ne se voit pas à l'extérieur? On est propre sur soi, on peut présenter, puis il n'y a aucun reproche, tout est lisse. peut même être dans une phase de réussite, puis en même temps, à l'intérieur, on se sent un peu nu. Et là, c'est ce qui se passe et qui est en même temps un bon baromètre spirituel. La clé, c'est d'utiliser ce baromètre pour se repentir, pour prendre une bonne décision, même si on a pris une mauvaise il y a un instant. Et c'est ce que fait David, et c'est en cela qu'il a un caractère très intéressant spirituellement. C'est que c'est quelqu'un qui accepte dans l'humilité de se remettre en question, en disant « je me suis trompé, et voilà, je me tourne vers Dieu, là j'ai fait quelque chose qui est pas bien ». Rappelez-vous, en plus c'est intéressant de voir les rapports avec un dirigeant, parce que imaginons, prenons Joab, et d'ailleurs Joab peut-être que ça a été aussi une des scènes qui l'a amené peut-être à perdre sa confiance envers David plus tard. Mais imaginez Joab et d'autres, ils ont mis 9 mois pour faire le recensement. C'est pas simplement, tiens, je sais pas moi, aller chercher un croissant. Non, c'est pendant 9 mois, tout le monde bosse pour le recensement, c'est une sacrée organisation. Et puis une fois que le résultat est là, j'ai dû faire une bêtise de vous demander ça. D'accord ? Imaginez l'entourage. Peu importe, David assume. Et même après, il va intercéder en disant à Dieu, arrête, c'est moi qui ai commis le péché. C'est moi, arrête ton fléau. Il intercède. Et c'est de cela dont j'aimerais parler maintenant, un instant. C'est quelle que soit la grandeur de votre péché, une simple repentance, et vous êtes accepté en Dieu. Une simple repentance. Petit péché, grand péché, je dis pas peu importe. Mais en tout cas, quel que soit le péché que vous commettez, ce que Dieu attend de vous, c'est pas que vous vous justifiez, c'est que vous tourniez vers lui en disant « Seigneur, j'ai eu tort, aide-moi, je demande ton pardon, je veux être restauré avec toi, je veux marcher dans ta volonté. » Là, j'ai pas marché dans ta volonté, mais maintenant je veux. Et ce qui est beau dans la vie chrétienne, c'est que d'une certaine manière, on sera jamais perdu. Je ne parle pas simplement du salut, mais je dirais même perdu dans les méandres de la volonté de Dieu et de savoir quel carrefour on doit prendre. Parfois, on prend des mauvaises directions, c'est sûr. Mais quand on se repent, on retrouve toujours le bon chemin. C'est jamais trop tard. Et ça, soyons toujours assurés de ça. Et c'est ce qu'on voit avec la vie de David. David, il est de la même nature que nous, il n'est pas mieux. Mais nous avons un Dieu qui est miséricordieux et qui n'a pas changé. Et la façon dont il voit un pécheur repentant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un châtiment, on le voit plus tard. Dieu va traiter ça, et en même temps il y aura restauration, tout le temps. Vous savez, on peut, et revenons un peu sur cette séduction qui consiste à vouloir toutes les cartes en main pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, c'est une manière de faire un dénombrement. Et ça ne marche pas par la foi. C'est le contraire de la foi. Il y a une chose qui est très intéressante, mais c'est pas uniquement que David qui a été dans ces doutes-là. Rappelez-vous l'enseignement que j'avais donné il y a nombreuses années maintenant, pour ceux qui étaient là, sur les 8 prophéties de Zacharie. Et en chapitre 4, je rappelle, dans Zacharie, Zorobabel, qui est le chef politique, doit reconstruire le temple. Esdras, lui, le chef religieux, Zorobabel, descendant de David d'ailleurs, doit reconstruire le temple. Donc c'est un chantier immense. Quand ils reviennent d'exil, ils sont tout contents dans un premier temps, puis quand ils voient les ruines qu'il y a en Israël, imaginez, le temple était énorme, le temple de Salomon. Donc ça faisait des tonnes et des tonnes de gravats. C'était devenu une carrière de pierre. Les gens se servaient pour construire leur maison. Et ils arrivent à Jérusalem en pensant recommencer leur vie comme si de rien n'était, et c'est un champ de ruines. Et donc ils se découragent, donc du coup chacun retourne à ses occupations, ils essaient de trouver un lopin de terrain pour cultiver, construire leur maison. On oublie le temple, on oublie les murailles. Donc Néhémie est chargé, lui, du chantier de reconstruction des murailles, et Zacharie, en tant que prophète, mais Zorobabel et Esdras, eux sont là pour encourager le peuple à reconstruire le temple. Et à un moment donné, Zacharie a une vision, on voit ça dans Zacharie 4, versets 2 à 6. « Que vois-tu ? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase. » Donc imaginez un chandelier, c'est pas exactement pareil, mais imaginons que c'est le chandelier à 7 branches qu'on connaît. Mais à la différence de ce qu'il y avait dans le tabernacle, il est surmonté d'un vase. Donc en fait, l'huile est au-dessus au lieu d'être en dessous. Normalement, dans le tabernacle, l'huile c'était dans le pied du chandelier. Là, c'est au-dessus. Et il est dit là, et portant sept lampes et sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Là, le peuple se sent complètement impuissant pour reconstruire le temple. En plus, il y a des ennemis qui sont là, qui sont pas contents que le peuple hébreu revienne en terre promise, donc il y a une tension. Et ils se disent, on n'y arrivera jamais. En plus, certains étaient des contemporains du temple de Salomon, donc ils se souvenaient, ils étaient vieux, mais ils se souvenaient de ce temple. Ils se disent, là, on est dans un chantier, on n'y arrivera jamais. Et Dieu dit, mais c'est pas ni par puissance, ni par force, de toute façon, c'est par mon esprit. Et là, les deux chandeliers que l'on voit, c'est très intéressant, il est dit, ce sont les deux oints de l'Éternel. Faut savoir que dans l'Ancien Testament, deux personnes étaient ointes. Ointes, hein, c'est-à-dire on met de l'huile sur la tête du consacré, et donc c'est un signe du Saint-Esprit, de l'autorité de Dieu sur sa vie. C'était le souverain sacrificateur qui était oint, et c'était le roi qui était oint. À partir du moment où Dieu a institué la royauté, c'était deux classes de dirigeants qui étaient oints par les prophètes ou par leur père. Et ça nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur et Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Et ce qui fait que quand les deux oliviers, qui en fait représentent Christ dans toute son autorité, en tant qu'intercesseur pour l'homme devant son Père, et en tant qu'autorité sur notre vie, il y a la puissance de l'Esprit. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une huile très rare et très chère qui était fabriquée d'une certaine manière. L'huile classique était concassée, comme on le fait aujourd'hui, d'accord ? Donc on pressait l'huile dans un pressoir. Mais il y avait d'autres sortes d'olives où on ne cueillait pas les olives, on les laissait mûrir au maximum, et au bout d'un moment, elles commençaient à suer des gouttes d'huile d'olive. Mais c'était pas la main de l'homme qui broyait l'huile d'olive, c'était la maturation. Et donc on mettait des bassins sous ces oliviers, et donc l'huile tombait goutte à goutte, et c'était une huile très... puissante, avec un arôme très puissant. Il suffisait de quelques gouttes d'huile pour embaumer un plat. Et donc ça parle du fait que quand c'est l'Esprit de Dieu, on n'a pas à mettre la main de l'homme, on n'a pas à fabriquer l'huile. C'est l'huile qui tombe d'elle-même, ça vient d'en haut. Dans la loi, dans le système de la sacrificature lévitique, c'est les Lévites qui devaient à la fois acheter de l'huile concassée, faite par les hommes, et ensuite mettre cette huile dans le pied du chandelier, et par capillarisation, l'huile remontait dans les mèches pour alimenter la flamme. Donc c'était un travail humain, ça c'est le système de la loi. La loi engendre des efforts et des œuvres. Lorsque c'est par l'Esprit de Dieu, il y a des bonnes œuvres, mais alimentées par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que les commandements de Dieu ne sont pas lourds. C'est quand on reçoit la vie de Dieu. Quand je suis animé par l'amour de Dieu, par exemple, qui surpasse toute connaissance, ou la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, j'ai envie de pardonner. C'est pas difficile. Celui qui vit dans un système légaliste n'a pas envie de pardonner, parce qu'il est vide en lui-même, il n'a pas la vie de Dieu, alors soit il est hypocrite, soit il ne le fait pas. Alors que quand l'amour de Dieu nous presse, il y a l'huile d'onction qui vient, et il se passe quelque chose dans les œuvres que nous pratiquons. Et c'est dans ce sens-là que les œuvres de Dieu ne sont pas faciles. Et quand c'est difficile, tournez-vous vers Dieu, demandez à l'aide de Dieu, Dieu à l'aide en disant, Seigneur, je veux t'obéir, mais j'ai pas envie. Donne-moi ton esprit, donne-moi ta force, donne-moi du courage, amène-moi à la repentance, attire-moi à toi avec ces cordages d'amour, comme il est dit en Ésaïe. Et ce qui est intéressant avec l'œuvre de Dieu, et là où on commence à voir sa miséricorde, c'est qu'il propose à David un deal, je dirais, en disant, voilà, je vais châtier ton péché, là je vais te corriger, je te propose trois choses. Et moi je ne sais pas ce que j'aurais choisi, parce que 7 années de famine dans le pays, C'est pas terrible quand même. Et puis on ne sait pas combien de morts il va y avoir. 3 mois de fuite devant les ennemis, là aussi, ça peut être dévastateur. Et en même temps, 3 jours de peste, c'est que 3 jours, mais c'est la peste. Et en tout cas, les 3 propositions renferment une idée très simple, le salaire du péché, c'est la mort. Simple. Alors c'est, là, en l'occurrence, c'est une mort physique qui est proposée, mais dans notre vie, c'est un peu la même chose. Et vous savez, ces 3 propositions, en fait, si on transpose dans la vie d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes pas une armée, nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas une nation, mais il se passe des choses dans notre âme. Et la famine, moi je l'associe à la faim qu'il peut y avoir dans notre âme. Combien de fois, lorsqu'on ne marche pas dans la volonté de Dieu, notre âme est en famine. Il n'y a rien qui nous plaît. Même les hobbies qu'on peut avoir ne nous satisfont plus. On n'a plus envie de voir des gens. Je ne parle pas forcément d'une dépression, ça peut aller jusque-là. Mais en tout cas, quoi que le monde puisse nous donner, on est dans une situation de famine. Il n'y a rien qui nous contente. Et Dieu permet ça. On a un psaume qui nous parle de la manière dont Dieu a agi envers le peuple d'Israël dans le désert, en disant, il leur a donné tout ce qu'ils réclamaient, notamment les cailles, mais il a amené le dépérissement de l'âme. La famine. Donc, ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient, mais à l'intérieur, ça ne les nourrissait pas. Et combien de fois on obtient ce qu'on veut? Tout comme David, il a obtenu ce qu'il voulait. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est la famine. Les 3 mois de fuite devant tes ennemis, là, ça part du fait que l'âme vit la défaite. Une relation qui se brise. Des tensions dans le corps de Christ, dans le couple, avec nos enfants, au travail. C'est-à-dire que on a l'impression que tout le monde est contre nous. Peut-être que nos fautes sont révélées aussi. On est défait devant nos ennemis. Les relations avec autrui deviennent un calvaire. Mais c'est Dieu qui permet ça, c'est un châtiment. Parce qu'on ne marche pas dans ses voies. Et puis la 3e chose, c'est 3 jours de peste dans le pays, ça part de la maladie. La maladie de l'âme. Il y a la famine de l'âme. Il y a la défaite de l'âme, et il y a la maladie de l'âme. C'est quand on commence à penser bizarrement. J'associe ça, moi, à ce qui s'est passé avec Saül. Saül est devenu complètement malade. Manque de sagesse, faisait n'importe quoi. Élie, qui était prétentieux et qui se croyait seul, lui, il a eu la famine dans son âme. Il avait vécu une très grande victoire avec les 400 prophètes de Baal. Mais le lendemain, parce qu'il doutait et pensait de Dieu et qu'il pensait être le seul à servir en Israël, il s'est retrouvé en plein stress de l'âme. Et puis nous pouvons avoir après David, qui devant Absalom a vécu des défaites. Il a été restauré après, mais les tensions qu'il a eues avec Joab, les tensions qu'il a eues à beaucoup de ses enfants, c'est un échec au niveau de sa vie de famille, David. Mais Dieu permet ça. Mais encore une fois, David réagit très bien, parce qu'il connaît, lui aussi d'une certaine manière, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il n'a pas confiance non plus en son propre cœur, les faits nous le montrent, mais il connaît son Dieu, du moins en grande partie. Et il se dit, mais c'est pas bon que ça soit moi qui choisisse. Je ne suis pas forcément sage. Ce que je sais, c'est que Dieu est miséricordieux. Et vaut mieux tomber entre les mains de Dieu s'agissant d'un jugement contre les mains de l'homme, dont je laisse à Dieu choisir. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. De pas vivre dans la culpabilité, de pas vivre dans la peur, dans la crainte, de dire voilà, je mérite ce que je dois mériter, ce que je dois subir, mais je m'en remets à toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, c'est toi qui me donneras la punition qu'il faut, et qui la donnera au peuple aussi, parce que Dieu est en train de traiter le peuple. Parce que je sais qu'il vaut mieux que ça soit toi qui choisisse que moi. Il vaut mieux que ça soit toi qui choisisse que les autres. Il vaut mieux tomber sous un châtiment de Dieu que sous le châtiment de l'homme. Souvent, je discute, quand on évangélise, les gens nous parlent de la loi. Alors, il y a ceux qui disent, oui, il faut appliquer la loi pour être sauvé, puis d'autres qui disent, ah, je veux pas croire en Dieu, parce que la loi, regardez, les 10 commandements et tout ça, en Israël, c'était violent, c'était dur. Œil pour œil, dent pour dent, je veux pas de ça. Et je leur dis, mais vous savez, les 10 commandements, le décalogue, c'est une loi de grâce. Alors bon, là, pourquoi vous dites ça? Parce que je dis, vous, inconsciemment, vous êtes de civilisation judéo-chrétienne, vous avez été quelque part influencé par les pensées de l'Église et de la Bible. Mais à l'époque, c'était pas œil, dent pour dent. C'était pour un œil, je crève 10 yeux. Pour une dent, j'en casse 10. Et c'est Dieu qui a restreint la vengeance humaine qui, elle, est souvent exacerbée, outrancière, et qui dit non, pour un œil, ce sera un œil, pas plus. Donc en fait, le décalogue était une loi de grâce dans le contexte de l'époque. Et ensuite, on rentre directement dans la période de la grâce, qui est la période de l'Église et du pardon. Donc faut comprendre le décalogue dans le contexte de l'époque. C'était une loi de grâce par rapport à ce qui se passait parmi les autres peuples. Et David a compris ça en disant « Je préfère la loi de Dieu, je préfère la correction de Dieu. » Vous savez, on fait tous des erreurs, on commet tous des péchés, on grandit, on tombe, on se relève. Mais n'oublions jamais que Dieu est juste, mais Dieu est gracieux aussi, il est bon. Et il ne fera pas dans votre vie ce qui va au-delà de ce qui est nécessaire. Il ne cherchera pas à se venger. Il va pas aller au-delà de sa colère ou de quoi que ce soit. Non, il fera exactement ce qu'il faut en gardant son amour pour vous. Tout comme il a gardé son amour pour David et pour le peuple d'Israël. Et donc, c'est Dieu qui va choisir, dans sa sagesse, la peste, 3 jours. Et donc, il va y avoir 70 000 hommes qui vont mourir. Et donc, on voit que là, David honore Dieu en lui laissant la place qui lui est due. C'est Dieu qui choisit. En Proverbe 24, versets 5 et 6, et on peut transposer ça dans nos relations les uns avec les autres, « Mieux vaut une réprimande ouverte, c'est-à-dire Dieu qui est franc, qui agit par exemple, parce que Dieu est notre ami, qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Dieu dit la vérité, Dieu agit en vérité, Dieu châtie en toute vérité. Et en même temps, il reste notre ami. C'est intéressant parce que l'ange de l'Éternel va venir, là je paraphrase ce que l'on a lu tout à l'heure, non on n'a peut-être pas lu ce passage-là. Donc l'ange de l'Éternel va venir, et là, donc la peste va venir dans le pays. Et à un moment donné, l'ange de l'Éternel arrive vers Jérusalem, et là David intercède en disant « Seigneur, c'est moi le fautif ». Et à cet endroit-là, l'Éternel demande à l'ange de l'Éternel de s'arrêter. Et il s'arrête du côté de l'aire d'Aravna. Et c'est cette aire-là, ce champ, que David va vouloir acheter pour offrir un holocauste et un sacrifice à l'Éternel. En disant, je vais acheter ce champ, l'endroit où la miséricorde de Dieu s'est manifestée, l'endroit où Dieu a dit stop, on arrête le jugement, on va pas au-delà, on touche pas à la ville de la paix. Je rappelle, Jérusalem, c'est une ville de paix. Il dit stop. Et c'est pas dans la Bible, mais selon beaucoup de commentaires, je dirais dignes de foi, il semblerait que l'aire d'Arevna, et d'ailleurs, c'est dit dans le texte quand même que c'était près de Jérusalem, s'assoit sur le mont Morija. Là où Abraham a apporté le sacrifice d'Isaac, et là où le temple va être construit peu de temps après, parce que le chapitre suivant, si vous lisez Chronique, là on a lu un extrait de que je retrouve le passage de 1 Chronique 21, si vous lisez le chapitre d'après, c'est David qui va donner les instructions à Salomon pour construire le temple. C'est-à-dire que David va vouloir sacrifier à Dieu sur la base de la miséricorde, là où le jugement s'est arrêté, là où l'ange de l'Éternel s'est arrêté, là où le temple va être construit, là où le Saint des Saints va être construit, là où l'arche, c'est-à-dire le siège de miséricorde, va être posé. C'est là que l'on retrouve notre communion avec Dieu et où le jugement s'arrête. Par Christ, on peut toujours revenir vers Dieu et par Christ, le jugement s'arrête. Donc pour terminer, pour éviter de faire ce genre d'erreur, si on l'a fait, cette erreur, ben voilà, on peut se repentir et puis on se dit, Seigneur, je te demande de m'aider à ne plus marcher uniquement par la vue, aide-moi à ne pas compter sur mes forces, aide-moi à marcher par la foi. Tu me demandes des choses qui peuvent me paraître difficiles, mais je te fais confiance. Pensons à ça. Et pensons à une chose aussi, et c'est, je dirais, synthétisé en Matthieu 28, vous savez, au verset 18 et 19, lorsque Jésus va envoyer ses disciples, c'est aller de par le monde, faites des disciples. C'est un défi incroyable ça, pour des pêcheurs de poissons, pour un collecteur d'impôts, pour des gens pas très cultivés, collecteur d'impôts oui, mais d'autres pas plus que ça. Aller par le monde faire des disciples, c'est quand même une folie. Oui, mais la première partie du passage, c'est « Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. » Quand Dieu nous demande quelque chose, tout pouvoir lui a été donné. Donc la provision est là. Et ensuite, on peut faire des choses qui semblent impossibles à vue humaine. Parfois, c'est quelque chose d'impossible dans notre maison. Un changement d'attitude, un emploi du temps différent, une manière de se parler différente, de prendre des décisions, de prendre une autre direction. Parfois, c'est dans le cadre de l'Église où on va aller dans une autre direction. Parfois, c'est pour... on est à un carrefour important de l'existence. Et on se dit, mais ça a tellement marché comme ça, pourquoi ça changerait? Et Dieu dit, oui, mais maintenant, on est à la fin d'une saison. Tu vas dans une autre direction et tu t'appuies sur moi parce que tout pouvoir m'a été donné. Et ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.